Là-dessus, apparemment, c'est parti.
Bonjour Rachid, merci de témoigner de ton expérience. Donc, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais et peut-être un petit peu ton expérience te plaît.
Alors, bonjour à vous, hein, tout d'abord. Donc, Rachid Lechi, je suis éducateur de formation. J'ai le plus gros de mon expérience professionnelle, je l'ai pratiqué dans l'exclusion. Notamment, j'ai passé une vingtaine d'années dans un centre d'hébergement qui accueille des personnes dites marginalisées, donc issues de la rue principalement. Et dans ce centre un peu atypique parce que les centres d'hébergement classiques proposent des prises en charge limitées. Et dans ce centre où j'ai travaillé une vingtaine d'années, l'idée c'était de proposer des espaces de vie sans durée de temps, avec de l'activité pour donner un peu de sens aux personnes et faire vivre un lieu. Il s'agissait d'une ferme, enfin, il s'agit parce qu'elle existe toujours, avec de la production agricole. Donc que les personnes hébergées soient actrices un peu de leur vie et ne se posent pas la question du lendemain, à savoir la fin de prise en charge, donc une durée illimitée. On pouvait y passer sa vie et y mourir.
D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est le plus gros de mon expérience et je travaille au SIAO depuis 2 ans. Donc j'ai dû quitter ce lieu pour des raisons familiales et personnelles. Voilà. Donc j'ai suivi mes enfants. Voilà pourquoi je travaille aujourd'hui au SIAO. Donc j'ai envie de dire c'est toujours en lien avec mon précédent travail puisque du coup je m'adresse à des personnes sans domicile fixe, issues de la rue. Et là, j'ai envie de dire, concernant le SIAO, par rapport à mon précédent travail, là, je suis un peu en amont, à savoir orienter les personnes. Et dans mon précédent travail, c'était l'étape suivante, à savoir le SIAO qui propose, qui oriente. Et le foyer où j'ai travaillé, on accueillait. Donc là, du coup, je passe à l'étape précédente. Mon expérience concernant la précarité, alors c'est un vaste sujet, la précarité, et surtout aujourd'hui, si on contextualise, on parle de précarité vis-à-vis du logement, précarité vis-à-vis du travail, précarité vis-à-vis de la santé, précarité familiale, précarité concernant l'éducation nationale, l'école, précarité énergétique. Donc c'est vraiment vaste, mais moi je vais plutôt parler de ce que je connais un peu mieux, après sans prétention, hein, la précarité des personnes marginalisées. Déjà définir un peu ce que c'est la précarité, moi à mon sens, la précarité c'est... Moi, ça m'évoque le manque de sécurité et le manque de biens, de nécessité. Quand je dis manque de sécurité, c'est un manque de moyens, donc moyens financiers surtout, parce que sans revenus, on peut difficilement accéder à la sécurité, à savoir avoir un toit, pouvoir se nourrir, par la suite pouvoir se soigner le cas échéant, pouvoir se chauffer aussi. Donc les personnes que j'ai pu accompagner, moi, c'est des personnes qui se sont retrouvées à la rue suite à des accidents de parcours, donc problèmes familiaux, problèmes liés au travail, problèmes liés aussi à l'addiction. Et pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, les addictions ont joué un grand rôle. Mais concernant les addictions, c'est les symptômes du syndrome, à savoir, j'ai des problèmes familiaux, professionnels et autres, je n'arrive pas à les résoudre, et du coup, pardonnez-moi l'expression, pour que la réalité tape moins fort, je pars dans les addictions pour tenter d'oublier. Et du coup, c'est le cercle infernal. Et du coup, on a du mal à s'en sortir et à revenir et à obtenir des revenus qui permettent de vivre mieux. Mais souvent, la précarité pour moi, encore une fois, ça n'implique que moi, ça part de la cellule familiale. Parce que, pour des raisons X ou Y, la famille n'a pas su ou n'a pas pu, quand je parle de famille, c'est les parents, les éducateurs, parce que ce sont les premiers éducateurs à mon sens, concernant l'enfance, parce que les parents n'ont pas su ou n'ont pas pu, pour X raisons, donner les armes nécessaires à l'enfant pour pouvoir se construire correctement, à savoir aller chercher un revenu, donc travailler. Aujourd'hui dans nos sociétés, pour obtenir un revenu, il faut travailler. Travailler pour pouvoir un revenu, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger, pour pouvoir se chauffer, s'habiller, etc. etc. Et du coup, ça pêche à cet endroit-là. Et du coup, pour se construire, on n'a pas les armes suffisantes qui permettent d'affronter la société. Et donc, il y a ce postulat-là. Après, je trouve que la société aussi favorise la précarité. Dans le sens où on veut responsabiliser les personnes et on ne prend pas en compte la vulnérabilité des personnes, à savoir que certains ont certes des capacités et des compétences, mais on ne prend pas en compte le fait que beaucoup ont besoin d'aide. Quand je dis aide, je veux parler d'un mot qui est transversal au travailleur social, et c'est le lien. Donc, je pense que c'est le manque de lien qui favorise la précarité des personnes déjà fragiles, parce que parcours de vie et manque de d'armes pour affronter la vie. Là où j'ai travaillé, donc ce lieu un peu atypique qui propose un hébergement avec de l'activité sans durée limitée, il s'agit d'une vie communautaire, donc basée sur l'entraide et le vivre ensemble. Et je me suis rendu compte, après toutes ces années, que beaucoup de ces personnes marginalisées qui intégraient la structure avaient des compétences et un parcours de vie, avaient travaillé, mais se retrouvent à la rue pour X raisons, mais surtout par manque de lien. Et selon moi, c'est le manque de lien, donc d'espace de parole, d'espace d'écoute, d'espace de rencontre, qui fait qu'on se retrouve dans des situations difficiles, à savoir le manque de revenus et de ressources. Or, les sociétés, et la société française, en l'occurrence, favorise l'individu au détriment du groupe. Or, on est des êtres humains et on a besoin de liens et de contacts, selon moi. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, on a du mal à apporter des réponses et pourquoi la précarité, elle grandit. Alors, mais le modèle de société proposé, c'est donc des réponses individuelles et la communauté, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce qu'on pense que l'individu doit s'épanouir par lui-même, sauf que l'individu a besoin du groupe pour s'épanouir. Selon moi, encore une fois, on vit au travers des autres. Et j'ai pu constater que les personnes restaient dans le lieu où j'ai travaillé parce qu'il y avait du lien, parce qu'elles se sentaient utiles pour les autres, pour la communauté. et qu'elles avaient des compétences et qu'elles les mettaient à profit de la communauté. Or, ce qui pêche aujourd'hui, je trouve, c'est l'individualisme et pousser les gens, donc les précaires, à trouver des réponses par eux-mêmes. Sauf qu'on a besoin d'être par moments dans la vie et on a besoin des autres, donc de lieux communs. Et aujourd'hui, ben, il n'y en a pas. Je vais prendre l'exemple du SIAO. Donc le SIAO, la particularité un peu du comité d'accueil Creusois, donc de l'association qui porte le SIAO, c'est de proposer aussi un centre de jour qui est couplé au SIAO. Donc le centre de jour, par définition, ça s'adresse à des personnes sans domicile, donc des personnes qui souhaitent trouver un lieu pour se poser, pour échanger, pour prendre un café, pour pouvoir se laver et pour pouvoir trouver une aide pour accéder à des besoins alimentaires. Et je constate que sur ce centre de jour, il y a des personnes sans domicile fixe, mais il y a des personnes qui ont un domicile. Mais ces personnes qui ont un domicile sont en rupture de lien social. Et elles viennent chercher ici du lien. Sauf que la réflexion par rapport à ces personnes, c'est de dire la mission d'un centre de jour, c'est d'accueillir des personnes sans domicile, donc on ne peut pas recevoir ces personnes. Et pour moi, c'est un peu problématique. Parce que, encore une fois, je pense que c'est le lien qui permet de sortir de la précarité. Et on devrait pouvoir accueillir des personnes qui ont un logement dans un centre de jour. Parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont besoin d'eux. De quoi, je ne sais pas, mais je pense qu'en premier lieu, c'est de lien et de pouvoir échanger, pouvoir être écouté et de pouvoir parler. Donc, encore une fois, ça revient à ma réflexion à moi, c'est de dire que c'est le lien qui permet, pas de sortir de la précarité, parce que c'est prétentieux, mais tout du moins, de trouver des solutions pour pouvoir sortir de la précarité.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement au centre de jour? Pourquoi ils ne vont pas dans un autre lieu de communauté? Et pourquoi ils viennent au centre de jour, d'après toi?
Alors d'après moi, je vais prendre l'exemple de ce qui est proposé là sur le bassin guérétois. Donc il y a un endroit qui s'appelle, je peux la citer, la quincaillerie numérique.
Oui.
Donc qui s'adresse à tout public. Un lieu gratuit où on a accès à un certain nombre de services. C'est un lieu de rencontre, d'échange, etc., etc. Sauf que je pense, je ne connais pas bien la quincaillerie numérique, mais je pense que parce que c'est un lieu large, qui s'adresse à tout public, les personnes en l'occurrence qui fréquentent le centre de jour et qui ont un logement, ne se sentent pas à leur place. Parce que peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas et qu'ils ont besoin de se reconnaître. Alors que dans le centre de jour, on s'adresse à des personnes à la rue, marginalisées, et que peut-être que ces personnes, peut-être, se considèrent comme marginalisées. Et du coup, ben, effet miroir. Donc, peut-être qu'on se sent à l'aise ici parce que, justement, on fait partie du même groupe. Après, c'est une hypothèse, hein. Mais, après, je pense que les personnes qui fréquentent le centre de jour et qui ont un appartement n'ont pas forcément besoin d'accéder à des services particuliers, à savoir ce que propose par exemple la quincaillerie numérique, un accès au numérique, un accès à de la documentation, un accès à des ateliers proposés, apprentissage de langue étrangère, ateliers couture, cuisine, que sais-je encore. Je pense que ces besoins ont juste, les personnes, hein, encore une fois, qui ont un logement, ont juste besoin d'un lieu où elles peuvent venir, aller et venir sans formuler de demande particulière, juste pouvoir se poser, pas forcément échanger, et c'est un peu ce que propose le centre de jour. Donc, pour moi, c'est peut-être une des raisons qui fait qu'elles viennent ici.
On leur demande rien.
Exactement. À la quincaillerie, donc encore une fois, j'y suis pas allé moi, mais peut-être que là, on va tenter de savoir s'il y a des besoins ou des demandes particulières Et peut-être que c'est perçu par ces personnes, donc toujours pareil, qui ont un logement, mais qui sont considérées comme précaires. Peut-être que c'est un peu inquisiteur. Peut-être que c'est un peu voyeur. Et du coup, peut-être que ça les dérange.
Puis le côté numérique aussi, quand même, ça peut refroidir quand on n'a pas cette culture-là, cette habitude-là. Quoi.
Tout à fait. Et du coup, en parlant de numérique, une des raisons aussi pour laquelle il y a ces personnes dites précaires, c'est selon moi le progrès et la société qui fait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un peu déshumanisé. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation et à tous les niveaux, hein, et notamment au niveau des pouvoirs publics. Donc, moi, j'ai un certain âge et j'ai grandi avec le numérique. Quand j'étais jeune, quand on voulait, je vais prendre un exemple concret, payer une facture France Télécom ou EDF, il y avait un interlocuteur en face.
Oui.
On allait dans une agence France Télécom, on pouvait payer sa facture. On pouvait aller chez EDF, il y avait une agence. Donc là, il s'agit de lien, encore une fois. Donc on avait quelqu'un en face. Donc ça permettait, un, créer du lien, deux, de repérer les situations vulnérables ou précaires, ou qui allaient le devenir. Et aujourd'hui, parce qu'on a tout dématérialisé et numérisé, il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus ce lien. Donc je pense que ça participe et favorise au délitement du lien, aux situations précaires qui grandissent et aux personnes qui s'isolent. Je pense que ça favorise l'isolement. Je pense qu'à à l'époque où il y avait un humain en face, il y avait cette possibilité de repérer. Aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité. Donc, ça favorise l'isolement et des situations de gens comme ces personnes qui ont des appartements et qui fréquentent le centre de jour. Alors qu'on pourrait et on suppose qu'à partir du moment où on a un appartement, on peut s'épanouir et puis avancer dans la vie. Sauf que, encore une fois, par rapport à l'endroit où j'ai bossé une vingtaine d'années, on s'est rendu compte, parce qu'on a aussi fait en sorte que ce projet de lieu à vivre, c'est le nom que porte le lieu, se démocratise et soit reconnu par les pouvoirs publics. C'est le cas aujourd'hui, mais il y en a encore trop peu à mon sens. Le facteur commun, selon moi, et ce que j'ai pu constater aussi, c'est l'isolement, le fait de ne pas pouvoir échanger avec quelqu'un, de ne pas pouvoir être écouté ou écouter l'autre. Et alors là, j'ai perdu le fil.
Oui, la question du lien.
La question du lien, oui, mais ce que je voulais dire, c'était finalement, les gens, le travail ne sauve pas les gens, le logement ne sauve pas les gens. Et ce que j'ai pu constater, moi, c'est que avoir un travail, ça ne résout pas forcément tout, et avoir un logement, ça ne résout pas forcément tout. Pour preuve, on a des gens qui fréquentent des lieux comme celui-là, alors qu'elles ont un logement et qu'elles n'ont pas forcément besoin ou pas forcément la nécessité de venir ici. Donc encore une fois, force est de constater que c'est le lien qui manque.
Alors, est-ce que les gens qui sont pas dans la précarité sans domicile fixe, donc qui ont un domicile, est-ce qu'ils viennent, pourquoi viennent-ils chez vous alors qu'il y a quand même d'autres structures? Je pense au CCAS, au GEM, je suppose qu'il y a un GEM. Voilà. Donc, quel est votre point fort pour attirer les gens qui dépassent votre compétence? C'est un peu réducteur, mais voilà. Pourquoi ils viennent chez vous, en fait? plus facilement.
Peut-être parce que, alors peut-être parce que je ne connais pas les autres, les professionnels qui interviennent dans ces lieux ou bénévoles, peut-être que, ici il s'agit de professionnels de l'éducation spécialisée, peut-être que c'est ça. On a un savoir-faire ou un savoir-être qui fait que. Peut-être que on ne pose pas forcément de questions, on accueille l'autre bah, comme il est, dans sa différence ou sa singularité. Peut-être encore une fois, parce que le centre de jour s'adresse à des personnes dites précaires et que ces gens se considèrent, que ces personnes se considèrent précaires. Donc, peut-être, hein, encore une fois, c'est mon point de vue.
Est-ce qu'il n'y avait pas un lien avant, justement, ces personnes qui viennent au centre de jour, elles ont peut-être tissé un lien avec vous au moment où elles étaient dans une situation très précaire, peut-être ?
Effectivement, peut-être que sur la durée, c'est parce qu'il s'est tissé une relation de confiance. Je pense que la confiance, il fait beaucoup. Peut-être que il y a de la confiance.
Vous intervenez quand ils sont au bout de route, quand ils ont plus de solution, en fait. Hein, tu le dis souvent.
C'est ça.
Et peut-être qu'ils ont du mal à défaire ce lien aussi.
Alors, ils ont du mal à défaire ce lien. Et souvent, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce qui fait que elles ont du mal à défaire le lien, notamment avec la chef de service, donc Claire Godefroy, que vous connaissez, qui s'interroge aussi sur ça. Qu'est-ce qui fait que... Moi, je n'ai pas la réponse, mais je suppose que c'est la confiance, le non-jugement. Et après, en tant que travailleur social, on est formé pour... ça me fait penser à un travail que j'ai pu faire en formation sur le fait de créer du lien pour délier le lien, lier pour délier. C'est ce vers quoi on devrait tendre. Mais avec les années et l'expérience, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mmh. Et puis par rapport à mon histoire de vie, mon parcours professionnel, je pense qu'on doit pouvoir offrir des espaces, même si on est hors des clous, hors cadre.
On voit bien quand même que l'équipe a du mal aussi à défaire le lien. C'est pas forcément la personne bénéficiaire, mais quel est le positionnement de cette équipe par rapport à ce lien à défaire ?
Alors, je vais te répondre. Je ne peux pas parler de l'équipe, je vais parler de ce que je vois et ce que j'entends. On n'est pas forcément tous d'accord.
D'accord.
Moi, mon positionnement, c'est le suivant. Cette femme qui fréquente le centre de jour alors qu'elle a un appartement, cette femme est bénéficiaire du RSA, qu'on parle de minimum. Moi, j'accueillerai cette personne. Or, certains membres de l'équipe ne sont pas forcément d'accord. Alors, ils ne sont pas pour autant radicaux, mais proposent par exemple à la personne en question, à cette femme, qu'elle vienne une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Personnellement, je pense que c'est violent. Et alors, je me positionne, moi, vis-à-vis de mes collègues et de l'équipe. J'ai un autre regard et moi, ma position, c'est la suivante, c'est si elle vient là, c'est qu'elle y trouve quelque chose, appartement ou pas, elle est là. Si elle avait ce qu'il faut, elle ne viendrait pas. Donc, le positionnement de l'équipe, il est quand même...
Il n'est pas unanime.
Non, il n'est pas unanime. Mais encore une fois, C'est très subjectif tout ça, hein. Moi j'ai un autre regard et parce que j'ai travaillé dans ce lieu un peu atypique qui accueille l'autre dans sa différence et qui va faire en sorte de faire émerger les compétences de la personne, parce qu'on a tous des compétences, marginales ou pas, c'est d'offrir un espace, mais sur la durée, parce que selon moi, il faut du temps, beaucoup de temps. Et accueillir des personnes ici qui ont des appartements, je pars du principe que si elles viennent, c'est qu'elles ont besoin. Sinon, elles ne viendraient pas.
Dans les termes de la mission du service, il n'y a pas de limite. Ça n'est pas, c'est pas marqué, par exemple, personne sans domicile fixe ou personne avec appartement. Enfin, je pense que c'est un accueil large.
C'est un accueil large. Cela dit, les textes sont clairs quand même. Un centre de jour s'adresse à des personnes sans domicile fixe.
Ah oui, d'accord.
Après, il y a des lieux qui sont à la marge, puisqu'on est dans la marginalité, qui, elles, accueillent toutes sortes de personnes. Mais il me semble, de personnes de situation, il me semble que le centre de jour, notamment du comité d'accueil creusois, s'adresse à des personnes sans domicile.
D'accord.
Voilà, ou en situation de précarité. Quand je dis précarité, c'est notamment... parce que c'est un peu générique aujourd'hui, la précarité. Oui. Précarité de l'habitat. Donc des personnes qui vivent en camion, pour prendre l'exemple de ces personnes, elles sont dites précaires, parce qu'elles sont dans un logement ou un habitat précaire. Et donc, elles peuvent accéder au centre de jour.
D'accord.
Mais la logique voudrait que, avec un appartement, on ne peut pas accéder à un centre de jour.
Donc, vous avez deux populations qui se côtoient dans vos activités, dans les activités que vous proposez, en dehors de l'accueil immédiat, des soins, ou est-ce que vous avez des activités communes, je dirais.
Alors, concernant le centre de jour, effectivement, il y a des activités communes. Après, il faut quand même bien différencier le centre de jour du SIAO.
D'accord.
Voilà. Le SIAO, donc Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, la mission du SIAO, c'est d'accueillir des personnes en situation de précarité vis-à-vis du logement en premier lieu, une personne sans solution de logement, et de trouver des solutions d'hébergement ou de logement. La mission du SIAO aussi, c'est une mission de veille sociale, donc à savoir constater, repérer et faire remonter un certain nombre de données. Une mission aussi d'évaluation des situations. Alors que le centre de jour, il s'agit d'accueillir des personnes en journée notamment, pour proposer un accès aux besoins primaires, donc se laver, se nourrir, trouver un lieu pour s'abriter, et plus si affinité. Le centre de jour, c'est la première étape, j'ai envie de dire. On peut très bien venir ici fréquenter le centre de jour, et puis par la suite faire une demande au niveau du SIAO. Donc on est, si vous voulez, à la rue, et après on souhaite sortir de la rue. C'est là qu'intervient le SIAO, pour proposer des solutions. Donc le SIAO, lui, il va s'adresser à des personnes qui sont sans solution d'hébergement. Le centre de jour s'adresse à des personnes sans solution d'hébergement, mais ici, force est de constater qu'il y a des personnes qui ont des logements et qui viennent fréquenter le centre de jour.
Il y en a beaucoup ?
Il y en a quelques-unes, oui. Oui. Alors moi, ça fait pas longtemps que je travaille ici, ça doit faire presque 2 ans. Je constate que oui. Et là, tout récemment, on a accueilli un certain nombre de jeunes hommes, en l'occurrence, âgés de 20 à 30 ans. 5-6 jeunes, là, parce que c'est tout récent, qui ont fait du 115, donc de la mise à l'abri immédiate. Par la suite, qui ont fait une demande SIAO pour intégrer un dispositif d'hébergement, qui ont pu accéder à l'hébergement, donc je parle d'hébergement et pas de logement, mais qui quand même tous les jours passent au centre de jour.
D'accord.
Donc, lier pour délier, il s'agit de les accueillir, parce que c'est un peu abrupt selon moi de dire à quelqu'un qui vient alors qu'il a un hébergement depuis peu, tu n'as rien à faire ici. Alors, il faut trouver les mots pour le dire, mais je constate que là, l'exemple de ces 5-6 jeunes qui ont pu accéder à l'hébergement passe régulièrement. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elles y ont trouvé. Mais après, lier pour délier, parce que ça fait partie du travail, et puis c'est pour ça, on est formé pour ça aussi, c'est de dire, voilà, tu as accédé à un hébergement, c'est une étape, tu as un projet de logement, tu as trouvé du travail, parce que c'est le cas pour les 5-6 jeunes en l'occurrence, maintenant il faudrait que tu puisses te détacher de nous. Il faudrait, comme on dit, couper le cordon.
Oui, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon...
Mais je constate que c'est difficile. Et encore une fois, hein, c'est mon expérience de vie et professionnelle qui fait que on a besoin de lieux, d'écoute, d'échanges, parce qu'on a besoin de parler, parce qu'on est en manque de lien social. On en revient selon moi toujours à la même chose.
Bon, moi, dans ce que vous dites, je note que vous êtes... repérable donc, et repéré avec par le 115 déjà, et donc après c'est un peu inéluctable le suivi des gens, c'est ça? Alors
oui,
en lien justement,
c'est vrai, oui,
parce que autrement peut-être que c'est une autre démarche d'aller vers un autre service, et puis il y a une certaine, comme vous disiez, neutralité ou... On accueille tout le monde, quoi. On ne demande rien à personne. On demande rien, voilà.
Je pense que c'est ce qui fait, oui, le fait que les gens s'adressent au service. Mm. Oui. L'endroit où j'ai travaillé pendant 20 ans, là, donc, c'est un prêtre qui a fondé ce lieu dans les années 60. Mm-hmm. Et c'est un prêtre qui a repris le flambeau dans les années 80. Donc à la tête de la structure, c'est un curé. Et donc au début c'était comment dire un peu au jour le jour, c'était non professionnel, il s'agissait d'un accueil inconditionnel. Le prêtre fondateur du lieu, donc la personne arrivait, le prêtre ne posait pas de questions. Donc là, à cette époque, on s'est adressé à des routards, donc c'était viens, pose-toi, mange, on verra plus tard. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là, ce qui fait que les personnes ont du mal. Voilà, parce qu'on a, on veut des réponses, on veut du retour. Et je pense que c'est ce qui fait que ça bloque.
Mmh. Oui, vous parliez à un moment donné d'évaluation quand même.
C'est ce pourquoi aussi on est payé.
Bah oui, c'est ça. Oui, bah, voilà, pas d'évaluation. Pas d'argent, c'est ça, en gros.
Je pense qu'on en est là, il y a une logique financière derrière. Ouais. Je crois qu'on arrive à la fin, juste un mot pour dire que la marginalité, alors c'est pas de moi, hein, mais ça résonne très fort en moi. Les personnes dites à la marge, je pense qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Parce que par définition, la marge dans un texte, c'est ce qui corrige le texte. Et du coup, pour moi, je pense que ces personnes marginalisées devraient... Enfin, c'est elles qui nous invitent à changer la société, et on n'en tient pas compte, hélas. On veut que ces personnes rentrent dans leur rang, alors que c'est elles qui peuvent nous aider à construire une société meilleure, une meilleure prise en compte.
Juste en accueil, vous avez une limite de personnes à accueillir ou...
Pas ma connaissance.
Non.
Après, c'est la disposition du lieu qui fait que...
D'accord.
Peut-être que s'il y a 50 personnes, on ne va pas pouvoir.
Oui.
Au niveau de l'espace, hein, c'est... Mais pas ma connaissance.
Parce que je note que vous êtes quand même en centre-ville,
oui,
et pas à l'extérieur, ce qui est quand même symboliquement intéressant.
Oui.
Bon, voilà, il y a plusieurs facteurs quand même. Quand je dis repérable, vous êtes repérable, il y a ça aussi. Il y a le lieu marquant en ville, quoi.
Oui.
Hein.
Mais il n'y a pas un nombre de un nombre limité, pas à ma connaissance.
D'accord.
Après, je pense que c'est l'espace qui va imposer ou induire, mais pas ma connaissance.
Je te remercie beaucoup, Rachid, pour ton témoignage.
Merci.
Et le joli mot de la fin.
Ah, ouais.
Merci infiniment.
Non, après, moi, j'aurais les questions. C'est qui vous paye? On ne donne rien aux personnes, d'accord. Mais voilà, d'où viennent les financements? La question de l'évaluation, c'est pas anodin. J'arrête moi aussi.